de la République avec Marie-Christine Navarro.
De la République, aujourd'hui premier volet, de l'Antiquité à l'Ancien Régime, la généalogie de l'idée républicaine, une émission de Marie-Christine Navarro.
Αυτής μόνο προστάτη και σωτήρα εσένα άρχοντα τα ούμε. Τι ο φίβος που ρωτήσαμε, αν ακόμα δεν τ' άκουσες, μας μήνυσε πως μόνοι για θεία για τις αρρώστιες οι φωνιάδες του Λάιου να βρεθούν και είτε από τη χώρα να διωχτούνε μακριά ή να σκοτωθούν. Μην αρνηθείς.
Tous les samedis de cet été, nous vous convions à une réflexion autour de la République. Pourquoi la République? Parce qu'il nous a semblé que ce concept, qui n'était plus guère usité durant les années 60 et 70, année des utopies politiques par excellence, a ressurgi avec d'autant plus de force il y a une dizaine d'années qu'il était censé combler un vide. Dès lors, de la gauche à la droite de l'échiquier politique, le consensus se mit à régner. Qui donc aurait osé dire qu'il n'était pas républicain? La République ne devint donc plus qu'une formule incantatoire, destinée à conjurer les malheurs du temps, ou les vicissitudes d'une Europe à la fois impuissante politiquement et incontournable sur le plan économique. Pour comprendre ce qu'est la notion même de République, pour analyser le processus historique long et douloureux qui conduisit à son avènement à la fin du XIXe siècle, pour mieux saisir enfin les défis qui lui sont lancés aujourd'hui, nous avons convié des historiens, des philosophes, des sociologues. Tous, en même temps qu'ils interrogent la mémoire et apportent quelques réponses, livrent leurs questionnements, appellent à réinventer et à vivre ce que la République depuis Aristote a sans doute de meilleur et de plus contradictoire en elle, cette universalité tant mise à mal aujourd'hui et au nom de laquelle tant de sang fut versé. Mais tout d'abord, retour à l'Antiquité, où naquit l'idée de la République avec nos invités du jour, Blandine Kriegel et Heinz Wiesmann. Je signale, Blandine Kriegel, que vous êtes l'auteur de La politique de la raison, que vous avez publié chez Payot. Vous êtes également l'auteur d'un petit livre fort utile, un livre de poche qui s'intitule Le cours de philosophie politique. Et vous êtes professeur à l'université de Paris 10, Nanterre, et vous vous intéressez depuis de longues années, je dirais, à la question de la République. Heinz Wiesmann, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vous dirigez l'Institut protestant de recherche interdisciplinaire de Heidelberg, vous êtes responsable de la collection Passage aux éditions du Seuil, et vous venez de publier une somme collective, enfin c'était en 96 quand je dis vous venez, c'était l'année dernière, une histoire des sociétés savantes en Europe et la tradition démocratique à Tübingen. Vous avez participé aussi à un ouvrage collectif, Héritage confessionnel et mode culturel chez Arléa. C'était l'article qui donc peut se trouver dans le livre qui s'intitule Pour une utopie réaliste. Alors, je voudrais que vous nous éclairiez un petit peu sur ces origines lointaines de la République et plus particulièrement de la République française. On a coutume de dire, ou en tout cas les historiens de l'Antiquité ont coutume de dire que c'est la Grèce qui a inventé l'idée de la démocratie, mais c'est Rome qui l'a appliquée en la transformant en ce qu'on peut appeler la res publica, c'est-à-dire la République, la chose publique. Est-ce que vous seriez d'accord l'un et l'autre? Et en quoi consistaient ces principes de la démocratie grecque et revus et corrigés par Rome, Blandine Kriegel?
Mais je dirais que peut-être il ne s'agit pas tout à fait de la même chose, parce que incontestablement, le terme de res publica qui a donné notre terme république, c'est une traduction que les latins, Cicéron, Tite Live ont faite du terme grec politeia. Ils ont traduit politeia par république. Et donc, il y a une origine grecque de la République. Alors, cela dit, dans l'ouvrage de référence, surtout qui a été lu non seulement par les latins, mais qui a été lu par les modernes, concernant la, au fond, cette chose publique. Aristote, donc dans la politique, fait une distinction qui est extrêmement utile entre ce qui ressortit à la politéia et ce qui ressortit à la question du gouvernement, puisqu'il dit qu'en vérité, dans les rapports civils, dans les liens civils que les hommes peuvent nouer entre eux, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux sortes. Soit, dit-il, un lien du type de la République, c'est-à-dire une société civile où on a en vue l'intérêt général et où l'autorité s'exerce par la loi sur des individus libres et égaux, soit un lien de type, un régime de type despotique où on a en vue l'intérêt privé et où l'autorité s'exerce par la force sur des individus assujettis. Mais une fois, dit Aristote, que l'on a défini ce lien civil, on n'a pas encore décidé à qui on attribue l'autorité. La question de savoir à qui on attribue l'autorité, c'est une autre question, c'est la question du gouvernement. Ce qui fait d'ailleurs dire à Aristote qu'une république, qui pour lui est le seul type de lien civil qui est conforme à la nature humaine, eh bien la république peut avoir des gouvernements différents. Elle peut, dit-il, avoir un gouvernement monarchique si le monarque, l'un, a en vue l'intérêt général. Elle peut avoir un gouvernement aristocratique si les meilleurs ont en vue l'intérêt général. Et elle peut avoir un gouvernement, alors là il fait un petit lapsus intéressant, il dit républicain si le grand nombre, dirions aujourd'hui démocratique, en vue l'intérêt général. Autrement dit, je crois que dès Aristote, il y a une définition qui a été proposée à la réflexion et qui a d'ailleurs alimenté beaucoup de commentaires, de la distinction qui existe entre la République et la démocratie. Alors ce qui est vrai, c'est que Athènes en particulier a connu une République démocratique, c'est-à-dire une République avec un gouvernement démocratique, que c'est moins vrai évidemment de la Rome antique où il y a bien eu un régime républicain, mais avec un gouvernement moins nettement démocratique. Mais ce sont deux questions différentes, si on en croit Aristote, mais je crois que sa distinction est bonne.
Heinz Wiesmann.
Enfin, l'essentiel a été dit. J'ajouterai simplement deux choses. Res publica, la chose commune, la chose du peuple, implique la séparation entre ce qui est privé et public. Et donc entre ce que les Grecs appelaient l'oikos, c'est-à-dire le domaine de la famille qui s'organise sous l'autorité d'un chef de famille, et ce qui relie ces maisonnées ou ces entreprises familiales entre elles, et qui suppose un accord, un consensus juridiquement formé. Eh bien, la chose publique res publica en Grèce s'appelait politeia, et le politès, le citoyen, s'opposait à l'homme privé qui s'appelait idiotès. Et c'est pas sans résonance pour nous de découvrir que l'idiot était celui qui n'adhérait pas à la chose publique. Or, cette séparation a eu lieu à un moment crucial au 5e siècle dans le miroir de la tragédie. Parce que c'est dans la tragédie où le destin politique est encore fermement tenu par les grandes dynasties qu'apparaît soudain la volonté du cœur, l'Orestie d'Eschyle par exemple, de façonner l'avenir de la cité, polis. Et donc entre le genos, c'est-à-dire la filiation familiale, qui dans un régime de type aristocratique ou même monarchique avant la lettre, confond l'administration de l'oikos, de la maison, de la famille, avec l'administration de la cité. La cité n'est pas séparée. La tragédie est ce moment crucial où les deux sphères se séparent. Donc je situerai au 5e siècle l'apparition même de l'idée que Aristote va ensuite essayer de penser. Et la deuxième remarque, c'est à l'autre bout de l'histoire ancienne, quand la République romaine devient empire, on assiste à une immense supercherie, mais orchestrée par les nouveaux sophistes au service des princes depuis Auguste, qui assimilent l'empire à la police, à la cité. Et d'ailleurs, on sait qu'à Rome, le civis romanus, le citoyen de Rome, était à la fois fictivement citoyen de la ville de Rome et en même temps, par élection, par, je dirais presque privilège, citoyen de l'empire. Et c'est là que ce que Blandine Crivel disait tout à l'heure apparaît très clairement, à savoir la chose commune peut parfaitement s'incarner en dehors de cette incarnation première qui est la cité grecque. Et Rome prépare ainsi, il me semble, c'est un tout petit peu annoncé par les dynasties qui ont suivi les expéditions d'Alexandre, Moyen-Orient. Mais c'est à Rome que se prépare ce qui va ensuite occuper la réflexion de tous les théoriciens du Moyen-Âge jusqu'à la grande rupture moderne, à savoir comment s'incarne cette chose commune, comment est-elle légitimement représentée.
Nous sommes fascinés par les républiques antiques. Je crois qu'il y a un double titre, il y a un double sujet d'étonnement. D'abord, vous savez, c'est Kant qui a souligné dans un petit opuscule qu'il y a une chose très étrange, c'est qu'alors que de nombreuses histoires, enfin de nombreux peuples ont versé dans la nuit des temps, nous continuons, n'est-ce pas ? Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement la civilisation occidentale, je dirais, c'est toute l'histoire moderne, toute la civilisation moderne, à nous interroger, à nous intéresser à ce qui s'est passé en Grèce et à Rome. Et Kant dit, la raison, c'est que là-bas, il y a quelque chose, il y a un début absolu de l'histoire politique qui est le début de la République, qui est l'histoire républicaine. Puis le deuxième, évidemment, sujet d'étonnement et d'interrogation, c'est la faillite de la République, parce que la République... La République et son gouvernement démocratique sont mortes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la démocratie grecque est morte, comme le disait très bien Wissmann, avec l'empire de Philippe, et surtout d'Alexandre. Et la République romaine elle-même a été retournée comme un gant, en son contraire, l'empire. Parce que si la distinction aristotélicienne a un sens, au fond, elle opposait... Puisque vous savez, les Grecs regardaient ce qui se passait en face d'eux, c'est-à-dire l'Empire perse, elle opposait quand même leur cité républicaine aux grands empires. Et là, la République était une exception. Or, ce qui est vrai, c'est que ces républiques, finalement, qui étaient une forme d'organisation politique exceptionnelle, c'est-à-dire où on avait en vue l'intérêt général et où l'autorité s'exerçait par la loi sur des individus libres et égaux, finalement, ont perdu à la fin du monde antique. Et alors.
Est-ce que je peux me permettre tout de même quelque chose qui me fait bondir quand je vous entends, Blantine Kriegel ?
Oui.
Tout de même, cette république dite universelle que Kant va reprendre, ces hommes libres et égaux, vous en oubliez quand même une grande partie qui n'était pas ni libre ni égaux et qui était esclave et qui était exclue de la citoyenneté. Donc, dès le début, dans cette notion de république universelle, il y a une contradiction que l'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui entre l'homme libre et citoyen et celui qui en est exclu précisément. Oui. Cette universalité exclut les esclaves.
Oui, il n'y avait pas d'idée de république universelle chez les anciens.
Mais enfin, oui.
Non, vous avez tout à fait raison. Cette république était une république pour un tout petit nombre et elle reposait sur, disons, sur l'exploitation des esclaves. Encore que
toute la société était esclavagisée en Rome.
On ne souligne pas assez qu'en Grèce même il y avait assez peu d'esclaves. Hein.
Mais à Rome, oui.
À Rome, oui. Alors bien entendu,
nous aurions été esclaves.
Ah, c'est tout. Vous anticipez sur au fond, l'une des réponses qui a été donnée, c'est que ce système républicain ne pouvait durer dans une société qui réservait l'égalité, la liberté pour un tout petit nombre et sur la base de l'asservissement d'un très grand nombre, et qu'elle était conduite à l'échec. Et c'est une...
Historiquement, il y a un moment intéressant parce que quand les Vandales, les Visigoths, etc. envahissent l'Empire romain, il s'agit de l'Empire de l'Ouest, le terme de république est abandonné. Et explicitement parce que le terme de république ne traduit pas correctement le nouveau rapport entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, qui sont très souvent réduits à l'esclavage. Mais c'est un esclavage qui ne correspond pas à la situation des esclaves dans la cité antique. C'est un nouveau type d'assujettissement qui apparaît. Mais il est tout à fait symptomatique que le terme de république a été mis en veilleuse pendant quelques centaines d'années. Il ressurgit beaucoup plus tard, finalement, la réflexion...
Mais alors, il ressurgit quand, justement, au XIVe siècle, entre le XIVe siècle...
Le terme de respublica n'a jamais disparu. Si vous lisez Saint-Augustin, n'est-ce pas, il emploie le terme de respublica christiana. Vous trouveriez la même chose chez Saint-Thomas, c'est-à-dire que le terme de république n'a pas disparu. Mais en revanche, Wissmann a raison de le souligner, il n'a plus le même sens. C'est-à-dire que cette idée républicaine, qui effectivement s'est effondrée à un moment donné, pour des raisons qu'il est difficile d'examiner aujourd'hui, mais qui tiennent peut-être au fait que, finalement, ce système ne pouvait pas fonctionner dans le cadre de rapports sociaux fondamentalement injustes. Et c'est toutes les trois thèses, parce que là, il faudrait voir au fond quel est le contenu de cette idée républicaine, de ce droit politique, de ce droit civil antique. C'est essentiellement un droit de citoyenneté, mais il ne fait ni de place à un droit de l'État, puisqu'il n'y a pas de séparation de la cité de l'État, ni de place surtout à un droit de l'homme. Alors quand l'idée républicaine ressurgit-elle? À mon sens, je parle d'une idée républicaine moderne, puisqu'il y a l'idée d'une république chrétienne, mais c'est une république de pèlerins, c'est une république, n'est-ce pas, de gens qui sont en... au fond, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans ce bas monde, chez Saint-Augustin, par exemple.
Oui, comme la République des Lettres est aussi une chose purement parallèle à l'univers politique.
Mais alors, l'idée moderne de la République, selon moi, c'est une interprétation, elle ressurgit très explicitement au XVIe siècle, avec Machiavel, n'est-ce pas, dans le discours sur la première décade de Tite-Live, et avec Jean Bodin dans les six livres de la République, c'est-à-dire assez tôt, hein, puisque Jean Bodin... un de ses premiers essais, La méthode pour la connaissance de l'histoire, date de 1566. Les six livres de la République, grand livre républicain, date de 1576. Là, il y a, si vous voulez, un retour tout à fait explicite au modèle de la République antique. Alors que vous voyez, par exemple, chez Saint-Augustin, il y avait une critique très sérieuse de l'idée républicaine antique. Saint-Augustin estimait que c'est à l'heure, justement, parce que, disait-il, il n'y a pas véritablement d'égalité. On prétend qu'il y a une égalité, mais quelle égalité existe-t-il, disait Saint-Augustin, entre les maîtres et les esclaves. Il n'y a pas véritablement de république terrestre. Il ne peut y avoir qu'une république céleste. Voilà. Mais alors, à partir de la Renaissance, avec Machiavel, avec Bodin, il y a l'idée que oui, si, on peut fonder une république terrestre, mais évidemment, cette fois, en transformant notablement le droit politique des anciens sur des points très importants. Et c'est pourquoi Jean Bodin, par exemple, à la fois reçoit toute la doctrine d'Aristote et en même temps la critique et la transforme. Alors, qu'est-ce qu'il reçoit essentiellement? Il reçoit, au fond, une partie du droit de la citoyenneté, l'idée de l'intérêt général, l'idée d'un lien civil, n'est-ce pas, qui est fondé sur la loi et pas sur la violence, comme dans l'Empire, puisque dans l'Empire, la dimension fondamentale de la civilité, c'est l'armée, n'est-ce pas,
l'impérateur, la guerre,
c'est la guerre, et le chef d'armée, non. Mais il ajoute alors des choses tout à fait nouvelles qui vont être le contenu du droit politique républicain moderne, c'est-à-dire un droit de l'État. Et c'est pourquoi il va développer la pierre d'angle, ce droit de l'État, à travers l'idée de la souveraineté. Il ajoute déjà les éléments d'un droit de l'homme, parce qu'on peut dire que la grande innovation...
Est-ce que je peux vous interrompre juste un instant pour dire que chez Jean Bodin, à travers cette notion de souveraineté, la majestas, d'une certaine manière, la République peut parfaitement être conçue comme une monarchie.
Oui, gouvernement monarchique, parce que c'est pas la même question.
Oui, on s'entend bien.
C'est pas la même question,
naturellement.
C'est une république avec un gouvernement monarchique.
Voilà.
C'est pourquoi, parce que là, évidemment, c'est très important de donner cette précision. Nous, depuis la Révolution française, nous avons en quelque sorte approfondi, l'opposition entre république et monarchie a été vectorisée définitivement. Mais, si vous voulez, non seulement lexicologiquement, mais par exemple, prenons l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre est garde des oripeaux, n'est-ce pas, d'un gouvernement monarchique, et pourtant c'est une république, ou la Hollande, ou le Danemark, c'est pas la même chose. Et alors, pour en revenir à Jean Bodin, c'est bien un penseur républicain, mais il est l'adepte d'une république avec un gouvernement monarchique. De même, Hobbes, c'est un penseur, la traduction anglaise de république sera Commonwealth, c'est un penseur de la république, et pourtant il est l'adepte d'un gouvernement monarchique très puissant, absolu. Locke est encore un républicain, et pourtant il est pour un gouvernement monarchique.
Quel est le rôle que vous assignez l'un et l'autre aux cités-États qui naissent justement avant Machiavel, entre le XIVe et le XVIe siècle, à la fois en Italie, en Hollande et en Allemagne?
Moi, je verrais là l'origine d'un grand clivage en Europe, parce que dans l'horizon de l'Empire, selon que l'Empire est puissant ou faible, le rôle des cités, et donc des républiques de petite envergure,
oui, comme Florence,
s'accroît. Et le grand modèle pour la réflexion politique deviendra Venise, parce que Venise est évidemment une cité qui n'est pas comme Ferrare ou comme Milan, ou que sais-je, dominée par une famille. C'est une cité de bourgeois qui élisent leur gouvernement. Et à partir de là, il y a toute une réflexion, il me semble, qui s'enclenche et qui... En Allemagne, où le Saint-Empire est évidemment un empire faible, favorise l'éclosion de ces ligues de cités, comme les cités de la Hanse, qui font du commerce, ou les cités de la Bavière, autour de Augsbourg, München, etc., qui font aussi, avec l'Italie du Nord, avec la Lombardie, du commerce, eh bien, accrédite l'idée qu'il peut y avoir une république qui est la petite république, celle de la participation politique, de tous ceux qui ont quelque chose à perdre à la marche du Commonwealth, et la grande cité, qui est cette cité abstraite qu'incarne l'Empire. Et entre ces deux extrêmes va surgir la monarchie française, il me semble, une incarnation très particulière de la République, avec une souveraineté assurée de façon centrale.
Voilà, oui.
Et le grand clivage, je crois que c'est assez juste de le présenter comme ça, fait évidemment qu'entre l'Allemagne et l'Italie, il va y avoir un effet de miroir tout à fait intéressant pour la réflexion sur le rôle des petites entités. Puisque la très grande entité qu'est l'Empire devient évanescente, purement idéologique, parfois sacralisée, mais faible. Et du coup, il y a effectivement une opposition très forte qui va ensuite, à partir de la Révolution, d'ailleurs dans la fantasmagorie ou dans l'imaginaire politique ou culturel des peuples, se superposer au choix de la Grèce ou de Rome comme référence. Si on est davantage dans la réflexion sur les petites unités, on va idéaliser le statut des cités grecques dans leur rapport à la nature. Enfin, c'est pas forcément comme ça, puisque les cités grecques ne se caractérisent pas seulement par la démocratie, parce que c'est le cas exceptionnel d'Athènes. Les cités grecques se caractérisent par leur insertion dans un contexte naturel. C'est un vallon. C'est un truc que, d'ailleurs, Athènes, au début, avant la démocratie, c'était comme ça. On était défini par un enracinement dans la nature.
Lieu.
Et ça prépare, bien entendu, une manière tout à fait spécifique de valoriser l'origine naturelle de la communauté dans la tradition allemande. Donc on superpose une Grèce idéalisée à la réalité du 18e siècle finissant, sur le début du 19e, après les guerres napoléoniennes. Et puis, on s'oppose ainsi à cette vision plus englobante qu'est la monarchie républicaine ou la république monarchique, où il y a au sommet un principe de souveraineté qui s'incarne, selon les cas, dans la figure du roi ou dans la figure même d'un despote. Même Robespierre est une telle incarnation.
Si vous voulez, la généalogie. Au XIXe siècle, c'est une question qui a fasciné l'attention de l'historiographie, et c'est vrai, là, on peut commencer comme ça. Il y a eu deux interprétations qui se sont opposées, qui se sont affrontées. D'une part, l'interprétation qui est celle, disons, de l'historiographie allemande, et qui montre, et très justement d'ailleurs, que dans la lutte entre le sacerdoce et l'Empire, les deux grandes puissances médiévales, la papauté et l'empereur romain germanique s'affaiblissant mutuellement, ils ont laissé se développer en quelque sorte entre leurs jambes, n'est-ce pas, un espace pour des cités-États qui ont pris leur indépendance, et c'est parfaitement exact. Et là, nous avons une renaissance de ces cités-États républicaines. Mais si vous voulez, sur ce point, vous voyez, je ne suis pas toujours, je suis pas souvent d'accord avec Nietzsche, mais je dirais volontiers avec lui que, au fond, cette renaissance fut, comme il, selon son expression, comme un premier printemps sous la neige, c'est-à-dire qu'il y a une explosion extraordinaire des républiques modernes dans ces cités-États italiennes, et c'est pourquoi tous les républicains du monde vont en Italie, parce que comment ne pas être secoué quand on voit, n'est-ce pas, les constructions de le théâtre olympique de Palladio à Vicence, n'est-ce pas, la place Saint-Marc, ce qui a été fait par, dont les colonnades ont été faites par son élève Scamozzi. Bien entendu, ce sont les Italiens qui ont réenseigné au monde moderne la République. Pourtant, si vous voulez, ces cités-États républicaines qui sont admirables, admirables en particulier sur ce plan esthétique, n'est-ce pas, l'art du Quattrocento, finalement ont été arrêtés brutalement dans leur développement, et si vous voulez, et ce n'est pas là que le développement républicain s'est déployé, et il s'est déployé, effectivement, il ne s'est pas déployé, alors là c'est un débat, est-ce qu'il s'est déployé à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique? Je ne le crois pas, et je voudrais dire pourquoi. Et là, il y a tout ce débat entre la Grèce et Rome qu'Anne Wiesmann a raison d'évoquer. Le Saint-Empire romain germanique, n'est pas comme d'une autre manière d'ailleurs l'autocratie tsariste, a voulu pendant très longtemps avec Löwenstaufen, refaire, n'est-ce pas, l'unité de la Rome antique, refaire Rome, refabriquer l'Empire romain. Il a, pour ce faire, il a d'ailleurs fait travailler ses légistes de l'école de Bologne pour recevoir le grand monument de droit romain qui était le Corpus Iuris Civilis, qui avait été élaboré à Byzance. Mais il a reçu le droit romain, il a voulu en faire, si vous voulez, le droit de tout le monde occidental. Il a voulu vassaliser les royaumes. Il a voulu donc refaire, prolonger la Rome antique, mais l'Empire romain. Or, les cités-États, bien entendu, ont résisté, mais je vous dirais, sur ce plan, elles ont beaucoup moins bien résisté que, et parce qu'elles étaient moins fortes, bien entendu.
Que les monarchies,
n'est-ce pas? Monarchies républicaines. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que si maintenant, si vous voulez, on passe en revue les doctrinaires, les philosophes, les penseurs, ceux qui ont élaboré le droit politique de la République moderne, eh bien, il y a quelques Italiens et les très grandes statures, comme Machiavel, Guichardin et d'autres. Mais maintenant, si nous donnons les noms, n'est-ce pas, eh bien, c'est Bodin, c'est Hobbes, c'est Locke,
Spinoza.
C'est-à-dire, voilà, les penseurs républicains modernes. Ils ne sont pas italiens. Et ils se sont trouvés dans ces monarchies républicaines, dans ces républiques avec gouvernement monarchique, qui d'ailleurs, pour un temps, devenaient, comme l'Angleterre, n'est-ce pas, la République, ou les provinces unies hollandaises. Et là, un droit politique républicain extrêmement consistant, beaucoup plus consistant que celui qui s'est développé dans le monde italo-germanique, n'est-ce pas, s'est mis en place. Et alors, pourquoi beaucoup plus consistant? Parce que, justement, d'abord, s'y est développé un droit de l'État susceptible de faire pièce au droit impérial, parce que, le grand acquis de la souveraineté, c'est que l'idée de souveraineté développe l'idée que il y a la légitimité d'une pluralité des États, de l'indépendance des États, contre l'idée impériale, n'est-ce pas, d'un empire unique, d'un empire universel, qui règne, c'est l'idée de Dante, n'est-ce pas, la monarchie universelle qui régnera sur toute la Terre. Non, dit Bodin, et disent tous ceux qui, comme Grotius, adhèrent à cette conception du droit des États, il y a une pluralité des États indépendants, et donc pas de monarchie universelle qui s'édifie par la conquête. Et puis, surtout, et ça, c'est, on le doit essentiellement, il faut le reconnaître, malgré notre narcissisme, aux Anglais ou aux Hollandais,
les droits de l'homme
qui ont été fabriqués, alors là, pas du tout à partir du droit romain, mais à partir, n'est-ce pas, d'une lecture...
Une référence au décalogue.
Des écritures, n'est-ce pas, des écritures, il faut ouvrir Bodin, il faut ouvrir... droit à la sûreté, tu ne voleras point un droit à la propriété, tu n'opprimeras pas les autres en conscience, ce sont des choses très
banales. La liberté de conscience, très important. Alors, si on reprend là...
C'est dans les républiques monarchiques, ou dans les monarchies républicaines. Que ce droit politique a été élaboré.
Blandine, puis-je dire un mot, s'il vous plaît?
Parce que je ne veux pas être injuste vis-à-vis de nos amis allemands. Il faut ajouter qu'en revanche, n'est-ce pas, puisque le droit politique républicain a été finalement moderne, a été une élaboration commune à toute l'Europe, que le droit du peuple, n'est-ce pas, le principe des nationalités, le droit du peuple...
Ça, ça vient de l'Allemagne.
Ça a été élaboré essentiellement, n'est-ce pas, à l'intérieur du...
droit des peuples, le droit des nations.
Oui, que ce sont les philosophes allemands, ce sont les penseurs allemands qui y ont réfléchi avec le plus de consistance, de profondeur, et que c'est de leur débat que a été constitué le droit du peuple moderne.
On va y revenir, parce que précisément, ça a des échos aujourd'hui. Mais simplement, là, au point où nous en sommes, nous dirions que la République, et je voudrais qu'on revienne alors à la République française, à son héritage, la République, donc, s'inscrit dans ce grand courant, et en particulier par rapport à la monarchie, où, d'une part, le droit de l'État, les droits de l'homme et les droits des citoyens sont ces trois faisceaux de droits qui vont la fonder, en quelque sorte. Avec cette nuance en France, c'est que la France est directement héritière du droit des citoyens tel que l'Antiquité romaine pouvait le concevoir. Et vous dites, Blandine Kriegel, que c'est un droit finalement relativement abstrait et que nous avons préféré le droit des citoyens en quelque sorte au droit de l'homme. Donc il y a là peut-être une articulation à retrouver aujourd'hui dans la République française. Qu'est-ce que vous en pensez, Heinz Wissmann?
Je crois qu'elle a raison. Je peux pas dire beaucoup mieux. Ben, à partir de là, j'aurais plutôt envie, parce que c'est oui, naturellement la bonne question qui nous brûle. Mais j'aimerais bien revenir à ce qui vient d'être dit, parce que, évidemment, le diagnostic de Nietzsche est juste. Ça a été un printemps sous la neige. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tant, c'est justement une question d'approche. Ce qui m'intéresse n'est pas de savoir qui a été plus efficace, plus puissant, etc. Pour comprendre ce qui se passe après la Révolution française, notamment en Allemagne, on a besoin surtout de l'imaginaire. Parce qu'on va utiliser l'idée républicaine en Allemagne, c'est très curieux, comme négation de la monarchie. Et quand la République de Weimar arrive, elle est proclamée et c'est inscrit dans la Constitution non pas comme un régime positivement défini, mais comme la négation de la monarchie.
En France aussi, le 19e siècle, la République sera la seule monarchie.
Oui, et simplement, il y a cette longue histoire française qui permet de penser ensemble la République et la monarchie. Oui. Ce qui fait qu'il peut y avoir, à l'époque où nous vivons, une sorte de résurgence d'un républicanisme monarchique.
Le nécessaire a été fait pour obvier à l'irrémédiable, à l'instant même où il allait se produire. Le déchirement de la nation a été de justesse empêché. On a pu sauvegarder la chance ultime de la République. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Nous l'avons fait sur la base des principes posés lors de notre investiture. Nous l'avons fait sans avoir à aucun moment à tenter à aucun droit du peuple et à aucune liberté publique.
4 septembre 1958, Paris, place de la République, discours du général de Gaulle.
La souveraineté de la République une et indivisible, qui elle est représentée par quelque chose qui est légitime et qui peut être le roi de droit divin ou un roi électif, peu importe. Mais c'est toujours
l'État.
La même structure. Or, ce qui en résulte, et c'est ça un peu la question que j'ai envie de poser ici, et ceci, dans la perspective de la monarchie républicaine ou de la république monarchique, qui est la perspective française extraordinairement féconde et puissante dans l'histoire de l'Europe, il y a une conception de la séparation des pouvoirs qui est verticale. C'est-à-dire ce que Montesquieu a essayé de penser, et penser pour la monarchie. Le roi doit, d'une certaine manière, laisser suffisamment de liberté à un certain nombre de niveaux de décision et d'action dans la cité.
Mais sauf qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir en France.
C'est-à-dire que, si, c'est, donc c'est pensé.
Bah non, vraiment, le pouvoir judiciaire n'est pas, par exemple, le pouvoir autonome. Ça,
c'est la raison pour laquelle je voudrais introduire le problème de la séparation horizontale des pouvoirs.
Jusqu'à la conclusion de la commission
Oui, bien sûr. Parce que tant que la séparation des pouvoirs est verticale, elle est largement minée par la prééminence du sommet de l'exécutif. C'est tout à fait clair. Et dans les débats récents avec les Américains, avec les Allemands, on a de plus en plus thématisé une histoire qu'on n'a pas tellement pris en compte, qui est l'histoire de l'instauration d'une séparation de pouvoir horizontale. Et le système fédéral, d'une certaine manière, est cela. Et alors, comment faut-il penser la séparation des pouvoirs dans un système fédéral ? C'est très compliqué, puisqu'on ne peut pas le penser comme issu naturellement d'amendements successifs du modèle français. Et je crois la véritable opposition, elle est là. Et j'ai relu récemment les mémoires du général de Gaulle, ça m'amuse énormément. Il y a dans le troisième tome un chapitre, l'ordre, où le général réfléchit sur la part que l'État doit prendre dans l'organisation de la société française, quelle part laisser au marché, au libéralisme. Et il finit, au vaincu, on va imposer comme punition un système fédéral, parce que ça va l'empêcher de bander à nouveau toutes ses forces pour nous menacer. Et comme c'était un homme remarquable, il termine le chapitre en disant « Mais l'histoire étant longue, il se pourrait que la dynamique engendrée par la juxtaposition de toutes ces énergies, finissent par être plus fortes que ce que nous avons réservé traditionnellement pour nous. » Et il termine la phrase en disant « Il se pourrait que ça devienne la matrice de l'Europe à venir. »
Et ça, c'est... Vous voyez qu'on a une discussion de, de quoi nous parlons. Là, nous parlons, n'est-ce pas, de la contribution de la tradition historique française et de la tradition historique allemande à la République d'aujourd'hui et de demain.
Et alors, faut et à l'Europe.
À l'Europe. Nous parlons de l'Europe, c'est ce dont parle Anne Wiesmann là ici. Mais alors, moi, je rejoins tout à fait ce qu'il dit et je l'exprimerai de la façon suivante. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est l'avantage et quel est l'inconvénient de la doctrine de la souveraineté qui, effectivement, n'est-ce pas, et de tradition française. Quel est l'avantage et quel est l'inconvénient de la doctrine fédérale qui est la tradition d'Allemagne? L'avantage de la doctrine de la souveraineté, c'est incontestablement qu'elle a réalisé, pour utiliser les termes de Tocqueville, une centralisation politique, c'est-à-dire l'idée d'un espace politique unifié où toutes effectivement les énergies convergent et qui permet, n'est-ce pas, d'égaliser l'espace politique, de le rendre égal, unifié. Ça, c'est une grande chose, et de le rendre également autonome, indépendant. Quel est l'inconvénient? Bien entendu, ça, vous avez tout à fait raison. L'inconvénient, c'est que cette doctrine de la souveraineté absolue, une, indivisible, qui transférait du monarque au peuple par les soins de Rousseau, a donné l'idée de la volonté générale, n'est pas une indivisible, infaillible, qui ne peut errer. L'inconvénient, c'est effectivement une résistance, là, vous l'avez dit, Marie-Christine, mais c'est très juste, à la séparation des pouvoirs, à la doctrine de la séparation des pouvoirs, de la distribution des pouvoirs, et par conséquent, on peut le dire, une remontée de type impérial. Il y a une remontée impériale dans l'histoire de la République française. C'est certainement pas par hasard que ces monarchies républicaines sont devenues des monarchies absolutistes d'abord, que la République elle-même a laissé place à des aventures impériales, qu'elle est devenue la République impériale. Il y a incontestablement ce problème récurrent, n'est-ce pas, de la souveraineté. La souveraineté ne peut pas être le dernier mot de la doctrine, au fond, du droit de l'État dans une République démocratique moderne. Ça, j'en suis absolument d'accord. Alors, inversement, quel est l'avantage, au fond, de la doctrine fédérale? L'avantage de la doctrine fédérale, c'est bien entendu l'idée, n'est-ce pas, d'une déconcentration, d'une décentralisation, au fond, nécessairement d'une décentralisation politique, mais... Là encore, je vais invoquer un terme tocquevillien, la décentralisation administrative. Parce que la centralisation politique est une bonne chose, la centralisation administrative se discute peut-être davantage quand il s'agit de gestion. Et évidemment, il y a quelque chose de grand dans l'idée fédérale, c'est-à-dire dans la participation plus digitalisée, n'est-ce pas, des citoyens, des régions, des localités à la vie politique, j'en suis tout à fait d'accord. Quel est l'inconvénient? Il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient, c'est que s'il n'y a pas eu une unité politique préalable, un espace politique unifié, la fédération peut nourrir la féodalité, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne pendant longtemps. Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas dans le passé de l'histoire allemande. C'est-à-dire qu'il y a eu une pérennisation par le fédéralisme, justement, par l'empire faible de la féodalité. C'est pas de la féodalité. Est-ce que, et d'ailleurs c'était le grand problème de l'unité allemande, est-ce que le royaume de Bavière, ou est-ce que telle ou telle principauté, n'est-ce pas, le Württemberg, la Saxe, devait encore exister, n'est-ce pas, avait un droit véritable d'exister devant l'unité de la nation allemande? Bon, on sait que l'Allemagne a eu beaucoup plus tard son unité. Donc, ceci pour dire que personnellement, je ne crois pas que lorsque on ausculte, si vous voulez, au fond, toute la généalogie de la République moderne, eh bien, aucune nation européenne ne détienne, si vous voulez, à elle seule, comme certains le voudraient, le secret de la réussite. Il n'y a pas de secret, n'est-ce pas, il y a des éléments à chercher chez tous les peuples européens. Nous avons tous, si vous voulez, produit quelque chose, et nous avons tous erré, n'est-ce pas, nous avons tous pas plus que l'exception française. D'abord, l'idée que la République est une exception française est évidemment une erreur, c'est une sottise, n'est-ce pas, car la République a existé avant la Révolution française et elle a existé après en Europe. Et par ailleurs, je pense que au fond, l'idée républicaine d'aujourd'hui, bien entendu, doit se nourrir, c'est-à-dire en fait la construction de la République européenne, doit se nourrir de ce qu'il y a de bien, n'est-ce pas, dans chacune des expériences.
Oui, mais alors revenons, si vous voulez, un petit peu sur les termes du débat aujourd'hui. Heinz Wilhelm, je vous donnerai la parole tout de suite, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui était très fructueux dans votre réflexion, Blandine Crégel, c'était de dire que encore un effort français, non pas pour être républicain, mais pour être plus démocratique, c'est-à-dire plus démocrate. Vous disiez, et je crois que c'est très important, que ce droit des citoyens qu'il a emporté en France, donc hérité de Rousseau, est un droit qui a d'abord été censitaire, puis capacitaire. Et il est fondé aujourd'hui sur la compétence, sur l'excellence, sur une forme d'oligarchie. On peut dire que le pouvoir aujourd'hui est entre les mains d'une caste, pour ne pas la nommer l'École nationale d'administration, et ce droit des citoyens, évidemment, produit des exclus. en a produit évidemment dès la Révolution française, a produit comme exclu les femmes, les prolétaires. Bon, aussi, on oublie trop souvent les noirs esclaves. Et aujourd'hui, vous dites que finalement, un des enjeux à cette fin de siècle, c'est de réussir à démocratiser davantage la République française.
Parfaitement. C'est bien ça. Parfaitement. Vous savez, au fond, cette observation. Mais la France, si on la compare à d'autres pays européens, dans le domaine des droits de l'homme, est extrêmement en retard, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas du tout en avance, nous sommes en retard. Ce n'est pas par hasard que nous sommes un des pays les plus souvent condamnés par la Cour de Strasbourg. Et un seul exemple, bon, la parité, qui est maintenant un grand sujet de débat, mais si vous voulez, l'accès égal des hommes et des femmes, d'abord aux emplois publics et ensuite aux charges publiques. Mais nous sommes, n'est-ce pas, à la lanterne de l'Europe. Alors, on peut se demander, évidemment c'est le rôle de ceux qui s'intéressent à la philosophie politique, on peut se demander s'il n'y a pas dans notre doctrine, pas seulement dans nos habitudes, dans notre pratique, mais dans notre doctrine, n'est-ce pas, des éléments qui nous y conduisent. Personnellement, je le crois. Je crois qu'en effet, la conception qui a été dominante, n'est-ce pas, de notre citoyenneté... qui est
le contrat, c'est le pacte.
Oui, l'idée, parfaitement, l'idée, n'est-ce pas, d'un peuple qui fonde son identité sur le contrat, c'est-à-dire sur un serment, et d'ailleurs où dans ce contrat ne sont convoqués que des adultes, n'est-ce pas, masculins, individués, là, et comme l'a admirablement représenté, avant même que ça n'ait vraiment lieu, David
oui.
C'est admirable, n'est-ce pas, ce tableau qui m'a fasciné. Un jour, je me promenais au Louvre et je suis restée plantée devant le serment des Horaces, que tout le monde connaît. D'abord parce que la date, si vous voulez, m'a vraiment frappée. Il a été peint en 1784, je crois, représenté en 1785, mais peint en 1784, avant la Révolution. Ce qui prouve que les artistes...
Les femmes pleurent dans un coin.
Les artistes sont des visionnaires. Hein. Et puis alors, ce qui est admirable dans ce tableau, n'est-ce pas, avant le serment du jeu de paume, c'est le serment, c'est le contrat républicain, n'est-ce pas, du père et des fils. Et dans un coin du tableau, effectivement, on voit les femmes qui pleurent. Seul le petit garçon masculin lève un œil intéressé. Et les femmes sont absolument exclues de la civilité républicaine. Cette civilité qui est fondée dans la théorie du pacte à la française, n'est-ce pas, sur une philosophie de la volonté, sur une philosophie de la décision et de la volonté. Et bon, et une philosophie de la volonté, une philosophie de la décision peut effectivement être à l'origine d'un contrat d'impact. Est-ce que elle suffit à respecter, n'est-ce pas, les droits de l'homme? Est-ce qu'elle suffit à rendre compte de l'existence d'une communauté nationale? Personnellement, je ne le pense pas. Tout simplement parce que, commençons par le droit du peuple, c'est ça, ce sont les Allemands qui l'ont fait remarquer, ils ont eu sur ce point absolument raison, qui l'ont fait remarquer aux Français. C'est qu'un peuple n'est pas un contrat. La meilleure preuve, c'est que
le produit de l'histoire également.
Bien entendu. Ce qui nous donne notre identité nationale, c'est au fond des habitudes d'habillement, de nourriture, des habitudes culturelles, que pour commencer, nous ne décidons pas, nous recevons, n'est-ce pas, nous recevons en héritage, et qui nous marque très profondément. La preuve, c'est que quand on a un certain âge et qu'on voyage à l'étranger, on souffre longtemps. On souffre. Bon. Et donc, un peuple n'est pas un contrat, mais je dirais, non seulement un peuple n'est pas un contrat, mais l'humain non plus. Ce qu'il y a d'humain en nous, n'est-ce pas, ne relève pas du contrat. Donc il y a quelque chose qui au fond, les droits de l'homme, vous voyez, échappent à la philosophie de la volonté. Les droits de l'homme échappent à la compétence, les droits du peuple aussi. Un peuple n'est pas fondé seulement sur
l'excellence, sur la raison,
n'est-ce pas, sur l'entendement. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pourquoi je crois que, au fond, la conception que nous avons de la citoyenneté, en France, qui vient du 18e siècle, il y a des choses très
positives, bien entendu,
très grandes, parce que il est très grand de dire qu'il y a une part de liberté dans la vie citoyenne, que la liberté est fondamentale, que le serment est fondamental, que l'instruction, que l'entendement, que la raison est fondamentale. Mais je dirais d'ailleurs même dès le 18e siècle, vous savez, cette conception qui était celle des philosophes des Lumières a été en fait discutée par Rousseau. Qui était scandalisé, et au fond son scandale venait certainement de sa conscience protestante. Il disait au fond, au-delà de l'entendement, au-delà de la compétence, il y a la conscience, il y a quelque chose qui est plus grand, n'est-ce pas, que l'entendement, que la compétence, que les lumières, qui est la conscience.
Je vais donner la parole à Heinz Wissmann, justement sur ce point, sur le débat aujourd'hui.
D'accord.
Le dernier mot.
Oui. Mais on ne peut qu'être d'accord avec l'analyse que Blandine nous propose. Et je dirais que je souscris entièrement à l'idée qu'il faut prendre ce qu'il y a de bon dans des systèmes antagonistes en essayant d'éviter leur côté négatif. Ça, c'est sûrement la tâche à laquelle nous sommes confrontés.
Énorme.
Seulement pour y réussir, il me semble que l'on ne peut pas se contenter de rester dans l'horizon des raisonnements de la théorie politique. Parce que l'adhésion, c'est pour ça que j'ai plusieurs fois invoqué l'imaginaire. Moi, je n'ai pas voulu évaluer. J'ai simplement dit on a adhéré à un certain schéma, à une certaine représentation des choses, parce qu'on était culturellement prédisposé. Et il me semble, vous l'avez dit au sujet de Rousseau tout à l'heure, que le clivage que la réforme a introduit en Europe est tout à fait déterminant. Et ce qu'il faut surmonter, c'est au fond une incompatibilité profonde entre une attitude qui voit dans une individuation qui échappe complètement au régime de la raison, quelque chose qui plaît à Dieu, ça c'est le protestantisme, et la contre-réforme qui institue quelque chose d'extrêmement rationnel et qui donne la civilisation universelle, avec d'ailleurs cette structure pyramidale empruntée à Rome, à la Rome antique, autant selon les moments. Napoléon, c'était la Rome antique, mais à d'autres moments, c'était la Rome spirituelle du catholicisme. Et il me semble que la référence que les Allemands font depuis donc le début du XIXe siècle, depuis le début, enfin Humboldt, etc., à la Grèce, ne peut se déchiffrer qu'à partir de l'option religieuse du protestantisme. La cité grecque est considérée comme plus authentique que la cité romaine, puisque la cité romaine repose sur un contrat, une convention, sur le droit, tel que Cicéron d'ailleurs l'a défini dans la République. Et ça paraît aux Allemands incompatible avec ce que vous avez justement évoqué, à savoir cet enracinement dans quelque chose qui dépasse les décisions, la volonté et les modalités du jugement rationnel. Et la difficulté que je vois, c'est que derrière les raisonnements qu'on peut développer dans l'un ou l'autre sens, il y a des sensibilités culturelles qui tendent aujourd'hui à être un peu mélangées ou même...
Exacerbées,
dans d'autres cas, c'est évidemment le modèle américain civilisationnel qui transforme un petit peu le comportement de la jeunesse, etc. Mais ce il reste, à mon sens, tout à fait essentiel qu'on ne néglige pas dans cette recherche des formules à venir l'adhésion culturelle religieusement fondée qui est encore tout à fait forte, notamment dans l'opposition qu'on observe entre les sensibilités politiques allemandes et françaises.
De la République, aujourd'hui premier volet, de l'Antiquité à l'Ancien Régime, la généalogie de l'idée républicaine, une émission de Marie-Christine Navarro avec Blandine Kriegel et Heinz Wissmann. Prise de son, Jean-François Néolier. Mixage, Bernard Laniel, Julien Douminc. Réalisation, Fabien Flora. La semaine prochaine, nous analyserons les fondements de la République avec Odile Rudel et Claude Nicolet.